BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, la photo de Kate a été retouchée, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine. Et comme d'habitude, il s'est passé énormément de choses et tout ce qui va se passer dans les semaines qui viennent sur l'économie, la finance, les placements et votre argent. Alors aujourd'hui, au sommaire, le mot de la semaine, enfin je ne sais pas si c'est le mot de la semaine, du mois, de l'année, de la décennie et ou de notre vie entière, c'est déficit public, surtout en France. La question macro, est-ce le début, un peu technique, mais vous allez voir, c'est pas si technique que ça. Est-ce que c'est le début d'une explosion de la productivité, notamment avec l'intelligence artificielle? Le chiffre de la semaine, c'est une prévision, la prévision de notre plateau sur le taux d'intérêt en zone euro à la fin de l'année 2024, en espérant qu'ils vont enfin baisser. En deuxième partie de l'émission, jeu de mots, bourse, boule ou bulle. La question d'argent, gestion active ou gestion passive. Est-ce que les ETF, vous savez, ce sont ces fonds indiciels qui répliquent les indices. Est-ce que c'est la solution à tous les problèmes ou est-ce que c'est la cause de tous les problèmes? On fera bien sûr le top ou le flop de la semaine, un événement, une personnalité, une institution qui a fait l'actualité de la semaine, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant. Bah oui, bah évidemment, pour une émission exceptionnelle. Alors là, je vais vous dire, je vous ai fait un plateau exceptionnel. Il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Alors elle, ce n'est pas un CV, c'est un article académique. Alors tenez-vous bien, elle a travaillé ou collaboré avec la Banque de France, la BCE, la BEI, l'OCDE, Goldman Sachs, le FMI, et j'ai dû en oublier, Natacha Vallat.
Non, c'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. Vous avez eu le temps de faire tout ça en si peu d'années?
Oui, ça a des enfants, une famille.
Bravo. Et vous êtes économiste et doyenne de l'école de management et d'innovation de... Je le dis, ouais.
Allez-y.
Je le dis, vous êtes sûr?
Mais oui, ce sera pas...
De Sciences Po, sans oublier des postes d'administratrice, notamment chez LVMH. Merci, on est très content de vous avoir. Merci. Lui, c'est l'idole des fans de valeurs moyennes et le conseiller du soir des dirigeants des small caps. Allez,
c'est un pédigré de nul par rapport à Natacha. Je suis presque sous la table.
Mais à part Jean-Marc, on a tous un pédigré de nul par rapport à Natacha. Eric Lewin, vous êtes rédacteur en chef des publications Agora, les patrons de Small Cap.
Ils sont pas le moral. Hein. Franchement, quand on voit l'écart de performance entre le CAC 40 et le CAC Small, c'est la soupe à la grimace.
Ouais, ils sont vraiment déprimés.
C'est catastrophique. Il n'y a pas de liquidité, il y a des problèmes de valorisation.
Et il y a de plus en plus, c'était votre thématique depuis d'un mois,
d'OPA. Regardez Believe, il y a une opération financière avec une contre-offre de Warner sur Believe. De plus en plus, il y aura ce genre d'opération. La cote s'appauvrit et il n'y a pas d'IPO. Donc, ça devient compliqué.
Il co-dirige une référence absolue en matière de gestion en France. Si j'étais riche, je lui confierais tout mon argent. Andrej Kabalec, vous êtes directeur général de Moneta AM. C'est mon rêve, quoi. C'est mon rêve de pouvoir aller vous voir avec
vous êtes
valise et vous dire, ça y est. Je peux pas. Un jour, peut-être. C'est un monument. Un monument de l'économie. Il y a d'ailleurs sa statue devant nos bureaux, devant nos studios, devant laquelle défilent des milliers de personnes tous les jours. Jean-Marc, c'est impressionnant, cette file d'attente, juste pour toucher votre statue.
Et encore, ça devrait être encore plus long, cette file d'attente. Bon, vous savez, j'ai vécu en Tchécoslovaquie, j'ai connu ce que c'est qu'une file d'attente.
Une vraie file d'attente.
Qui attendent.
Pour la France, parfois j'arrive là, j'ai l'impression que c'est le début du Black Friday, quoi.
Ah ben oui, je comprends.
Mais c'est magnifique, bravo. Hein. Et puis surtout, je voudrais annoncer que vous invitez tous les téléspectateurs de C'est Votre Argent chez vous pour votre anniversaire.
Exactement.
Donc on donnera la date exacte. Aurez un bandeau qui va défiler avec son adresse et son portable.
C'est facile à trouver la date de mon anniversaire. Mais vous savez, je le rappelle régulièrement, je suis de plus en plus fier de mon lieu de naissance.
Qui est
Bordeaux,
oui.
Et de moins en moins content de ma date de naissance.
on la dira pas, hein. Mais vous faites tellement jeune. Allez, le mot de la semaine, c'est déficit public. Ouais, c'est crazy. Voilà, les déficits publics américains, surtout, hein, tout simplement dingue. 8% aux États-Unis, 5% en France. Alors que nous ne sommes pas en période de récession, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir des déficits très élevés en plein Covid, quand il y a une crise. Mais là, il n'y a rien de tout ça. Moi, j'ai une question simple, Natacha Vallat. Est-ce qu'on peut afficher des déficits aussi importants longtemps et sans aucune limite. Ça me rappelle un peu les taux négatifs. On disait à quel moment ça s'arrête. Ben, ça s'arrête quand il y a de l'inflation. Mais là, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Les États-Unis peuvent continuer à faire du 8% et nous du 5%?
Ce qui est très clair, c'est que quand on accumule des déficits, qu'ils soient primaires ou non, d'ailleurs, on augmente son stock de dette. Et ce qui est clair aussi, c'est qu'aujourd'hui, le Fonds monétaire international, quand il fait ses prévisions de dette à moyen terme pour les États-Unis sur des scénarios centraux, il a une trajectoire de la dette public qui n'est pas forcément stable. Donc ça dit que finalement, quand on continue année après année à avoir des déficits, donc des déséquilibres des finances publiques qui n'aboutissent pas sur une anticipation de rééquilibrage, il y a un moment où on a du mal à se dire que bah, la démographie va aider, la croissance va aider à stabiliser tout ça. On a été un peu en toute impunité depuis que les banques centrales ont acheté, par ton mot, les émissions nettes de dette publique. Voilà. Et finalement, ça a duré tellement longtemps qu'on s'est endormi à nouveau, puisqu'on était quand même plusieurs déjà auparavant, même presque avant 2008, peut-être pas pour les États-Unis, mais comme la France, les stocks de dette étaient moins élevés, mais en tout cas, cette tendance au déficit chronique était déjà là, à dire attention, on est responsable de monnaies qui sont considérées comme des actifs sûrs, le dollar étant en première ligne, mais l'euro en fait partie également, on a cette responsabilité de dire aux détenteurs de cet actif, attention, quoi qu'on fasse dans le futur, ça restera un actif sûr et une valeur d'ancrage. Alors, cette problématique, elle n'a pas la même dimension des deux côtés de l'Atlantique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, encore, le dollar, c'est la monnaie dominante du système monétaire international.
Donc vous dites que tant...
Justement, alors ce qu'on dit souvent, c'est oui, la monnaie, le dollar est monnaie dominante, on s'en sert pour les échanges, les réserves sont encore très largement dominées par le dollar. Moi, je dis attention, le monde change, la géopolitique compte, et les pays, notamment les pays asiatiques qui ont cru bon, pour des raisons légitimes, d'accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de réserves depuis les années 90, vont peut-être avoir moins besoin de stocks aussi énormes. Et puis surtout, une substitution en dehors du dollar vers d'autres monnaies de réserve.
Ou vers l'or, comme le font certaines banques centrales.
Bien sûr, ça advient aussi. Alors, ce qu'on observe, c'est malheureusement, entre guillemets, que le dollar diminue à peu près de 10% en termes de réserve de change. Pas forcément en faveur de l'euro, mais en faveur de d'autres monnaies. Le dollar canadien, enfin bon, c'est pas non plus des monnaies très, très risquées. Hein. C'est pas du yuan qui se substitue massivement. Mais quand même, on voit ce mouvement arriver. Et moi, je pense qu'il faut pas... Ces grandes permanences ont toujours eu une fin dans l'histoire. Et là, les fondements, de mon point de vue, sont en train de s'effriter un peu pour différentes raisons, notamment des raisons de gestion de la politique budgétaire.
Et j'ai envie de vous dire, mais comme une monnaie, c'est un couple, si on est tous mauvais, si nous, on est à 8%, mais que les Européens sont à 5%, alors nous, la France, parce que les Européens ne sont pas à ces niveaux-là, bah finalement, si tout le monde a énormément de déficit, la parité, elle n'a pas de raison de bouger.
Alors, tout est relatif, vous allez dire, mais les encours de dette au niveau mondial sont absolument massifs. On a vu des crises de la dette dans l'histoire économique et Jean-Marc sera beaucoup mieux placé que moi pour donner des exemples concrets.
Bah, sous Clovis, mais... il nous en parlait la semaine dernière.
Voilà, donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a ces déséquilibres et qui s'accumulent, qui vont s'accumuler dans un état stationnaire ad vitam aeternam. Moi, je serais très très prudente par rapport à ça.
Sonnette d'alarme ou pas?
Alors oui, non, sonnette d'alarme, je serais moins catégorique et moins inquiet que ce que vient de dire Natacha. Pourquoi? Parce que dans les crises précédentes, à chaque fois, le référentiel ultime, ce que les États étaient supposés fournir, c'était de l'or. Et ça, l'or, ils ne le fabriquaient pas. Or là, maintenant, on est avec des États alchimistes. C'est-à-dire, l'or moderne, c'est le dollar. Et le dollar, ils en fabriquent autant qu'ils veulent. Vous prenez tout ce courant intellectuel de la théorie monétaire moderne qui consiste à dire... Tant qu'il n'y a pas d'inflation, c'est pas grave, et il n'y aura pas d'inflation tant qu'il y a du chômage au niveau mondial. Et donc, des gens comme Stéphanie Kelton ou tous ces gens qui ont théorisé tout ça, ils vous disent, écoutez, ce que vous mesurez pas, c'est qu'il y a une sorte d'arbitrage de Phillips mondial qui est gigantesque. Il y a encore un chômage colossal. Tant qu'on n'aura pas résorbé l'exode rural indien, l'exode rural africain, vous avez des réserves de main-d'œuvre qui vont absorber la quantité de monnaie qu'on met en circulation. Et donc, il y a une sorte de rôle positif des États-Unis qui consiste à être l'acheteur en dernier ressort de la croissance à venir de l'Inde et de l'Afrique.
Enfin, ça a ses limites quand même. On s'aperçoit qu'on est en plein emploi dans plein de pays développés, qu'on veut pas d'immigration sauf aux États-Unis.
Oui, mais donc, vous mesurez la quantité d'exode rural qu'il y a à gérer en Inde, vous mesurez la quantité d'exode rural qu'il y a à gérer en Afrique. Et ce que les gens ne voient pas, c'est que le jeune actuel est un paysan encore. Parce que le jeune actuel est un Africain et il est essentiellement paysan.
Donc vous nous dites qu'il n'y a pas de limite, on peut continuer comme ça.
Il n'y a pas de limite pour les États-Unis. Il n'y a pas de limite pour les gens dont
d'accord,
on accepte
mais nous,
la monnaie.
Par exemple, 5% de...
Alors nous, il y a deux limites. La première limite, c'est que, effectivement, derrière tout ça, il faut que la Banque centrale accepte d'être l'alchimiste. Ouais. Or, la Banque centrale. Le banquier en dernier ressort. Il est partagé. Et donc, il faut avoir la même vision du rôle du déficit public, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et la deuxième limite, pour les États-Unis, c'est ce que je mets toujours en avant entre les pays détenteurs et les pays détenus. Il arrive un moment où les gens qui accumulent des excédents sur le dos des États-Unis utilisent ces dollars pour racheter les États-Unis. Ouais. C'est le célèbre tweet de Trump où on lui dit, vous savez, il y a des voitures allemandes là qui sont en train de polluer New York et d'éliminer l'industrie automobile allemande. Et il y a quelqu'un qui lui dit, mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que l'hôtel dont nous sortons est propriété des Japonais. Et à ce moment-là, Trump, avec la subtilité qu'on lui connaît, fait à l'époque, c'était un tweet, il dit, si les Allemands et les Japonais n'ont pas compris en 1945, nous sommes prêts à repasser le couvert. Bon, et donc, il y a les Allemands, les Japonais, les Chinois, potentiellement, effectivement, il y a une partie de la souveraineté américaine qui disparaît, et c'est ça qui provoque éventuellement une réaction des États-Unis. Sinon, encore une fois, le discours qui consiste à dire nous sommes le consommateur en dernier ressort de l'exode rural indien, donc il n'y a aucun problème, est un discours qui est assez cohérent.
Natacha, sur la France, il n'y a pas un moment où on va nous dire qui va nous jouer le flic pour nous dire faut arrêter là
sur les marchés, très certainement.
Pas tellement.
Pas pour l'instant.
De 85.
Non, mais c'est pas... Si je peux dire juste un truc dans cette partie, il y a eu une émission obligataire à 10 ans il y a quelques jours, 3,5, il y a eu 4,6 milliards d'aides jugées, 13,4 milliards de demandés. Donc on a toujours des investisseurs qui sont là, les taux longs ne remontent pas, s'ils ont remonté depuis un an les taux longs c'est à cause de l'inflation, c'est pas du tout sur cette problématique budgétaire, donc on a l'impression que les investisseurs, vous êtes angoissés, mais les investisseurs internationaux, pas du tout.
En termes relatifs, mais encore beaucoup de liquidités, c'est ça aussi la question. Les banques centrales sont massivement en stock. Détenteurs de dettes publiques, notamment de dettes publiques.
Donc, qui va nous dire à un moment il faut arrêter de dépenser n'importe comment et le quoi qu'il en coûte, c'est fini.
Cette capacité-là et cette confiance dans l'équilibre du système, elle repose sur la capacité à taxer. Encore une fois, Jean-Marc pourra en dire beaucoup plus long que moi d'une
personne. Non, surtout pas.
Mais on arrive à des taux de prélèvements obligatoires qui sont quand même très très importants, des taux de dépenses publiques sur PIB total qui le sont aussi, avec une efficacité relativement contestable
vu de
façon agrégée en tout cas. Donc il y a une réflexion, une vraie réflexion à faire sur la qualité, mais on en revient
mais à faire, mais personne ne l'a fait.
Personne ne nous dit qu'il faut arrêter. On sera sans doute contraint à la faire. La entre guillemets chance qu'on a, c'est quand même qu'on a une résilience de la demande en France qui est liée aux politiques publiques aussi, il faut bien le dire. On redistribue quand même pas mal, donc ça lisse le
système. Oui, mais on redistribue en faisant du déficit, donc de la dette.
Donc voilà, et ça pour moi, à terme, c'est vraiment pas soutenable.
Mais le marché sera le juge de paix, c'est tout.
Juste une remarque sur la redistribution par la dette. Il faut voir que la dette elle-même est un mécanisme de redistribution, mais ce que les économistes appellent un Robin Hood reversed. C'est-à-dire, on prend les impôts de tout le monde, puisqu'effectivement tout ça est assis sur des impôts, pour reverser des intérêts à la partie normalement la plus aisée, la plus favorisée de la population. Donc il y a aussi un aspect qui est un aspect, je dirais, un peu de philosophie économique, c'est est-ce qu'il est normal que l'État se donne comme objectif de faire l'inverse de Robin des Bois, c'est-à-dire de prendre l'argent des pauvres pour le redonner vers les riches. Or, ça devient relativement important en France, puisque en 2027, d'après les projections de la loi de programmation budgétaire, c'est 75 milliards qui vont être pris sur les impôts de tout le monde, c'est-à-dire le SDF qui va acheter au franc prix de la bière, il va payer des impôts pour permettre à BlackRock de récupérer une partie de ses...
Vous êtes devenu communiste ou...
Non, je suis devenu hostile à la dette publique.
Alors lui, il est devenu écologiste parce que sa fille, elle lui fait la gueule s'il n'est pas plus vert. Et là, il y a votre fils qui est passé de l'autre côté. Donc...
Non, pas encore. Je les surveille. Ma fille, elle a tous les droits, mais les autres, je les surveille.
André, j'ai juste une question. Quand vous voyez la gestion des dépenses publiques, vous qui regardez des entreprises toute la journée, je sais qu'on ne compare pas un État à une entreprise, on n'a pas la même mission, mais vous ne dites pas on marche sur la tête?
Moi, je peux paraphraser un politicien allemand dont j'ai oublié le nom, mais qui disait concernant la France, la France, c'est le pays qui voyage dans un train en première classe en ayant payé un billet de deuxième classe. Et je pense qu'un jour, il y aura un contrôleur. Alors, à voir si le contrôleur, ce sera un contrôleur du CDU ou d'une autre législature.
Mais Natacha dit, pour l'instant, il n'y a personne.
Voilà. Non, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais un jour, il y a quelqu'un qui va se réveiller et qui va dire que...
Moi, je pense qu'on n'a même pas payé le billet de seconde classe. Je pense qu'on est monté...
passager clandestin. Ouais, mais pour répondre à cette question, vous avez quand même le théorème de Jacques Chirac.
Effectivement, tous nos partenaires nous regardent, ils trouvent désinvoltes, mais Bruxelles, ils vont nous envoyer des chars. Ils n'en ont pas.
Et donc, c'est ça le grand argument.
Ils sont tous en Ukraine. Allez, on passe tout de suite à la question macro de la semaine. Juste une question rapide pour nos économistes. Est-ce qu'on est à l'aube d'une explosion de la productivité? La productivité, c'est quand même un élément, vous allez nous expliquer en deux mots ce que c'est simplement. On dit que c'est une des explications de la hausse de la bourse. L'idée est que les progrès techniques de l'IA en particulier vont booster la productivité, donc booster les résultats des entreprises. En deux mots, déjà, la productivité, c'est quoi, Natacha?
Faites comme si
vous étiez à Sciences Po, pas tout à fait.
Pas trop compliqué, pas trop. Pour moi. Hein.
C'est ce qu'on est capable de produire par unité d'intrant.
D'accord.
Ou par unité de travail, par unité de stock de capital. Donc c'est l'intensité de ce qu'on est capable de produire. Or, on sort d'une période vraiment très très mauvaise en matière de productivité, notamment de productivité du travail.
Okay.
C'est très vrai en France, beaucoup plus vrai en France que chez nos voisins européens, par exemple, la plupart. Donc ça, c'est un vrai... Ça s'explique qu'il y a plusieurs facteurs. Bref, l'IA arrive et on se dit... Comme on se l'était dit aussi il y a 15 ans, quand on a eu l'Internet et puis les vagues technologiques, on se dit, ça va nous délivrer ce qu'on appelle les fruits qui pendent bas. On va pouvoir injecter du temps gagné, injecter de l'efficacité, notamment dans la complémentarité capital-travail, mais aussi dans l'efficacité du travail lui-même. Et donc, ça nous permettra d'être beaucoup plus productifs à quantité, à heure de travail donnée.
Voire en travaillant moins.
Et la réalité, c'est que ce qu'on observe en Europe et en France en particulier, c'est qu'on est devenu assez mauvais. Alors, on est excellent pour faire de la recherche fondamentale, mais on dépense pas assez, on n'investit pas assez sur la recherche. Donc, on est moins bon que les autres, on est moins bon que les États-Unis, moins bon que la Chine, qui rattrape les États-Unis. Cela dit, on est relativement meilleur, ça c'est les enquêtes de la BEI qui le montrent, et ça se retrouve un peu ailleurs, on est meilleur à faire diffuser le progrès technologique, à diffuser les innovations. Donc si on utilise cette force intelligemment, on sera capable de voir que finalement sur des métiers dont on n'avait pas l'habitude de voir des gains de productivité accélérés par rapport à d'autres, on sera peut-être capable de... Mais le peut-être...
Donc c'est pas un fantasme
Pas forcément, mais il dépend de facteurs qu'on n'a pas pu observer jusqu'à maintenant. Donc on est quand même dans des scénarios assez hypothétiques. Il faudra qu'on soit capable de réorienter des pans entiers de...
Mais elle augmente déjà la productivité aux États-Unis.
Oui, c'est vrai. Mais
elle a explosé même. Plus 5 au T3 et plus 3,2 au T4.
C'est sûr. Mais il y a après des questions de mesure.
Il a bossé parce que vous étiez là.
Bah oui, d'habitude,
il
ne bosse pas.
D'habitude, il n'a jamais un chiffre.
Si on parle des États-Unis, c'est un peu. Il y a un effet d'avance qui est quand même considérable.
Il y avait la pression quand il a vu que vous étiez là.
Non, et quand j'ai vu les invités, j'ai bossé toute la nuit comme un dingue.
Sinon, je ne fais rien. Pour voir mon portefeuille d'investissement en fixed income, là,
L'IA, ça va nous tout changer?
Non, mais ça va tout changer. Alors, on est dans la phase. Vous savez, les économistes disent dans un progrès technique, il y a la phase de l'invention, qui est la phase qui fascine les ingénieurs. Et il y a la phase de l'innovation, qui est la phase où l'industriel récupère la fascination de l'ingénieur. Alors, on a fait beaucoup dans l'invention, et on a beaucoup été très fascinés par tout ça. On a eu droit au paradoxe de Solo. Solo, c'est l'économiste qui nous a quittés à la fin de l'année dernière.
Solo de Star Wars, ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Donc, Solo, c'est Robert, il nous a quittés à la fin de l'année dernière, et il disait, c'est sa grande formule, les ordinateurs, on les voit dans les bureaux, on les voit pas dans les statistiques. Et donc, il y avait deux raisons à ça. La première, c'est que, effectivement, c'était pas forcément aussi efficace qu'on l'espérait. Et deuxièmement, il y a un problème de mesure, Natacha l'a dit. Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité? Mais alors, la deuxième remarque que je ferais, c'est que j'ai participé ici à une émission sous l'autorité de Marc Fiorentino, et sa grande angoisse, c'était la disparition du travail.
Mais moi, j'en suis sûr.
Et il nous expliquait que, effectivement,
j'en suis intimement persuadé
qu'il allait y avoir des gains tellement spectaculaires de productivité que le travail allait disparaître.
Et j'y croyais pas.
Ah, moi, je pense que le travail salarié va disparaître, mais pas le travail. Et en tout cas, je comprends pas pourquoi. Le même Marc Fiorentino me pose la question sur la productivité. Réponse est évidente. Il va y avoir des gains de productivité.
C'est énorme.
C'est énorme. Sinon, à quoi servir cette émission à laquelle on m'avait convié il y a 3-4 mois de ça?
Allez, on passe tout de suite au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, ce sont les taux d'intérêt en Europe à la fin de l'année 2024. Tell me more, nous dit-on dans Grease. Les yeux dans
quelle
les yeux.
Quelle référence.
C'est Aspin,
mais il n'y a que des trucs.
Moi, j'ai Han Solo et...
Et Christophe ou Jacques Dutronc.
La BCE, la baisse des taux. Bon, on pense que ça va être en juin, un mois près.
C'est vrai que ça se confirme. Moi,
okay. On va finir à combien, en fait, en fin d'année?
Le plus tard... moi, le plus logique, ça me semble le plus tard possible, parce qu'on sent vraiment les réticences de ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, qui savent bien qu'ils n'aiment pas l'inflation, qui ne sont pas vraiment convaincus de ce qu'ils voient sur le marché du travail, au niveau de l'inertie des processus de négociation salariale, etc., avec les incertitudes sur les matières premières aussi, parce que ce qu'on a vu...
Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non, moi, je ne suis pas...
Vous seriez patronne à la place de Christine Lagarde, vous auriez déjà baissé les taux?
Ah non, je ne les aurais pas baissés.
Ah bon?
Du tout, non. Moi,
mais on serait fâché alors?
Oui, je le sais. On a échangé là-dessus. Moi, je pense qu'il faut attendre. On ne peut pas enclencher une baisse de taux. On ne les baisse pas, puis on les remonte et on les baisse. Il faut qu'il y ait une prévisibilité et il faut qu'il y ait une certaine certitude sur un processus d'inflation.
Non, mais dites pas ça, vous faites de la peine.
Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les baisser non plus. C'est-à-dire que.
Vous n'osez pas la contredire, Marc, quand même.
Non, non, elle sait que je suis complètement pas d'accord du tout avec ça.
Historiquement, les taux ne sont pas massivement hyper élevés en termes réels. Il faut quand même.
Ils sont juste en train de flaguer la croissance, mais ce n'est pas grave.
Pas vraiment, ça. On ne peut pas tout à fait le dire. Donc, je pense que c'est bien d'attendre.
Bah, zéro en croissance au premier trimestre de l'année en France. On va faire 0,3.
Mais que se passe-t-il sur le marché du travail? Il y a des incohérences dans les signaux macroéconomiques. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des risques qui étaient perçus.
Donc, vous vous dites on va baisser assez tard.
Donc, on va baisser la
matinée. Vous pensez qu'on va perdre?
Ça se précise quand même.
Vous pensez qu'on va baisser de combien dans l'année?
Je ne sais pas, trois baisses, moi, ça me semblerait...
Trois baisses de 0,5 ou trois baisses de 0,25?
De 25, oui.
Ah ouais, trois baisses de 0,25, quelle catastrophe.
J'ai du mal à
je suis content que vous ne soyez pas la tête de la BCE. Hein. Parce que sinon, on serait fâchés, j'ai pas envie qu'on se fâche.
Non, il est temps qu'on baisse les taux quand même, parce que si vous prenez la note de conjoncture de l'INSEE à laquelle vous faites allusion,
qui est déprimante.
Qui est déprimante, et ils disent bien que le véritable problème, c'est l'investissement, et l'investissement est largement dépendant des conditions de financement. Et les conditions de financement, quand l'INSEE dit ça, c'est des taux d'intérêt. Je rappelle quand même que la courbe des taux est toujours inversée, c'est-à-dire que les taux à court terme sont toujours supérieurs aux taux à long terme.
Donc vous pensez qu'elle va baisser de combien, Christine?
Ah mais ça j'en sais rien parce que là je suis pas dans sa tête. Je peux dire ce qu'elle devrait faire, mais je ne sais pas
alors,
ce qu'elle va faire.
Dites-lui, elle vous écoute, qu'est-ce qu'elle devrait faire?
Écoutez, on a des taux d'intérêt qui sont à long terme à 3,73% en Italie, qui est le taux le plus élevé en zone euro. Et si j'applique la règle plus ou moins simple, taux d'intérêt égale taux de croissance sur la durée moyenne, une sorte de règle de Taylor, avec on arrive entre 3 et 3,5%.
D'accord.
Et on est à 4,5%. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas le faire de façon un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et puis, on entretient trois petits bouts
de 0,25.
On dit ça tout de suite à 3,5.
C'est une question de gradualité, en fait.
Il dit tout de suite 3,5.
Je pense que si. Mais après, s'il y a une crise un peu brutale, ça ira un petit peu plus vite.
Vous, c'est important pour vous, André?
Oui et non. Parce qu'en fait, les entreprises, elles sont souvent... Alors, il y a une dichotomie entre les large et les small sont souvent moins couvertes contre la hausse des taux, donc elles ont souvent des taux variables, et c'est vrai qu'on le voit dans certains bilans, la hausse des taux, et donc surtout la déformation de la courbe est pénalisante. Mais pour beaucoup d'entreprises, surtout celles par exemple qui ont du cash, par exemple une trésorerie importante, la période actuelle n'est pas extrêmement défavorable, puisqu'elles ont été surfinancées à une période où les taux sont bas.
Donc elles profitent presque de la hausse
des taux. Oui, parce que le net d'intérêt, vous voyez, elles replacent leur liquidité aujourd'hui à 4%, et on ne le voit pas, en tout cas, on n'a pas vu dans les chiffres qui ont été publiés les résultats, on n'a pas vu que le net d'intérêt augmentait, et pour certaines sociétés, il y avait même un effet d'aubaine. Et donc, nous, ce qu'on voit aussi, c'est... Alors après, j'ai du mal à vous dire quelle est notre espérance de baisse de taux. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit déjà des baisses de prix de certaines sociétés qui avaient pour beaucoup énormément augmenté les prix, et on le voit dans différents secteurs. C'est intéressant, à la fois dans le vitrage, donc ça c'est un secteur qui est très régulé par des consommations de gaz, donc bien sûr les prix du gaz ont baissé, donc ils sont ajustés, mais aussi dans l'automobile, les voitures neuves, les prix baissent, les voitures d'occasion, les prix baissent fortement. Là en février on a eu des chiffres,
même les prix des voitures d'occasion,
moins 5%. Dans un autre rayon là, c'est l'alimentaire. C'est un exemple que j'aime bien citer qui anime en général la séance, c'est les prix du poulet. Donc le poulet LDC, ils ont baissé les prix de 7% depuis septembre. Et c'est vrai que même dans l'habillement, on voit de plus en plus de promotions, des soldes.
Et pourquoi vous regardez Jean-Marc là ? Vous lui conseillez de changer sa garde-robe ou...
J'ai défendu la fast fashion, donc je suis tout à fait disposé à me précipiter pour changer ma garde-robe.
On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse, pour savoir s'il y a une bulle ou pas, et peut-être pas du tout. La gestion, pour savoir si les ETF, ces fonds indiciels, sont le problème ou la solution. Évidemment, le top 3, le top ou le flop de nos invités. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve avec le monumental Jean-Marc Daniel, avec André Chkavalek de Moneta, avec Eric Lewin d'Agora et avec Natacha Valla. Heureusement que Natacha Valla n'est pas patronne de la Banque Centrale Européenne, parce qu'on serait fâché, j'ai vraiment pas envie de me fâcher avec elle. On va parler de la bourse, on va parler des ETF, on va parler du top ou flop de la semaine, de la personnalité, institution ou événement qui a fait l'actualité de la semaine, du top 3 des gérants, des actions à acheter ou vendre. Et tout de suite, on passe au marché. Bon ben ça va bien, hein. Tout va bien, 8200, le CAC plus de 8% de hausse, le S&P 8% de hausse, le Nasdaq 8% de hausse, tarif unique, l'Eurostock 10%, le Nikkei spectaculaire 16%, même la bourse de Shanghai est revenue dans le vert à 2%, l'ambiance est plutôt bonne, même les chiffres d'inflation qui étaient un peu plus mauvais que prévu n'ont pas eu d'impact, on sent vraiment, on est dans ce que les Américains appellent, alors c'est pas tout à fait vrai, on va en parler tout à l'heure avec Eric Lewin, on est dans ce que les Américains appellent quand même l'Everything Rally, le Bitcoin, de l'or, tout monte, c'est un peu l'euphorie. Juste avant de se poser la question de savoir si c'est une bulle ou pas, Jean-Marc Daniel, comment on définit une bulle en fait ? Comment on se dit on est en bulle ou pas ?
Écoutez, je crois que pour définir une bulle, il faut revenir à la définition que donnait Maurice Allais. Maurice Allais, pas Alphonse.
Non.
Prix Nobel d'économie.
Oui, pour vous, c'est peut-être Alphonse Allais.
Alphonse Allais.
Non, moi, c'est Maurice Allais. Ouais. Et donc, Maurice Allais disait que quand il y a une bulle...
Et encore, même Alphonse Allais, franchement.
Oui, moi. Et alors, donc, il disait, voilà, tant que ça monte, tous les gens sont des investisseurs avisés. Puis à un moment donné, tout s'effondre et à ce moment-là, les gens sont devenus des spéculateurs aveugles. Et donc, une bulle, c'est au moment où brutalement, effectivement, tout se met...
Non, ça, c'est l'explosion de la bulle.
L'explosion de la bulle.
Mais la formation de la bulle, quand est-ce que Greenspan dit en 96, exubérance irrationnelle, elle explose 4 ans après. Mais il a identifié que la bulle était en train de se constituer, elle a grossi, elle a explosé. À quel moment on peut se dire, ça y est, on est... Je ne dis pas à quel moment elle va exploser, parce que ça, on ne peut pas le savoir, mais à quel moment on peut se dire, on est dans une bulle ?
Alors, je pense encore une fois qu'on ne peut jamais se dire exactement quand on est dans une bulle. Alors, il y a quand même des objets dont on peut considérer qu'ils ont un prix qui est un prix naturel, qui est, pour en revenir à les célèbres aux tulipes hollandaises, il y avait un prix qui était le prix du marché, entre guillemets, qui était le coût marginal, la façon dont on préparait, dont on développait ces oignons de tulipe, et puis il y avait la différence avec le prix qui était affiché sur dans la spéculation. Alors après, effectivement, ça dépend des produits, c'est-à-dire est-ce que le Bitcoin c'est un prix, c'est un coût marginal, c'est là aussi notre prix Nobel Jean Tirole à propos du Bitcoin, il dit est-ce que le Bitcoin...
Il n'a rien à voir avec la région.
Non. Et non, pas du tout. Il chante pas de façon bizarre. Non, il parle de façon normale. Et il dit, est-ce que ce sera durable? Il dit non. Est-ce que c'est inquiétant le fait que le Bitcoin s'envole et que le Bitcoin va s'effondrer? Il dit non plus. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui est sur un segment tellement particulier, relativement petit par rapport à l'ensemble de la finance, que là, il y a une bulle parce que on est sur quelque chose qui n'a pas de valeur en tant que tel et qui est relativement marginal par rapport au reste de la finance.
Est-ce qu'il y a une bulle ?
Qui n'a pas de fondamental.
Qui n'a pas de fondamental.
Natacha, avant d'interroger les hommes de marché, est-ce qu'il y a une bulle pour un économiste ?
La bulle, quelque part, c'est un petit peu, en principe, la valeur actualisée des flux futurs de rendement, de façon générale. Alors, les rendements, ils prennent différentes formes en fonction des différentes classes d'actifs. Et c'est... moi, je dirais qu'il y a des bulles aussi parce que les liquidités ambiantes sont encore très, très importantes, notamment au niveau de l'émetteur américain et de l'émetteur euro. Mais si les valorisations aujourd'hui, je me mets dans un monde hypothétique où l'intelligence artificielle est vraiment la source de futurs gains de productivité.
Mais je vais expliquer à Jean-Marc Daniel, mais il ne comprend pas.
Alors, les anticipations de flux de rendement futurs actualisés par la série
justifient les valos.
Alors là, il faudrait vraiment que l'IA ne nous claque pas entre les doigts et qu'on soit capable de transformer en activité économique ce que ça nous promet. Donc je pense qu'on est quand même un peu au-delà de ça quand même. Et si on regarde ceteris paribus en fonction des capacités productives aujourd'hui.
Pardon. Vous avez un peu.
Sans changer rien.
Non, redites-le parce que là, attendez, excusez-moi.
Les gens sont perdus.
C'est
pas possible.
Et à part Jean-Marc Daniel, personne n'a compris.
Imaginons que le monde ne change, que les technologies.
L'expression latine.
Il nous faut l'expression latine. Ceteris paribus.
Bien sûr.
Voilà. Exactement. Si rien ne change dans les conditions de production, c'est-à-dire qu'on reste dans les conditions de production actuelle, bah franchement, les flux de revenus futurs actualisés en fonction des taux d'intérêt qui certes vont baisser, mais enfin quand même, ne justifient sans doute pas les valorisations qu'on voit maintenant de façon générale. Après, il y a
Eric
sans doute
Léridus.
Des sectoriels.
Non, il n'y a pas. Écoutez,
en latin.
Il y a pas. Allez, à Jacques Taille, c'est la seule phrase que je connais. Non, moi je trouve qu'il n'y a pas du tout de bulle. Du côté des entreprises, franchement, les résultats sont au rendez-vous. On va faire plus de 150 milliards de bénéfices pour le CAC 40. Les baisses des taux, même si Natacha n'est pas très pour, il y aura au moins 2-3 baisses des taux, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe cette année, donc c'est plus la problématique. L'intelligence artificielle dévaste tout sur son passage, et c'est pas comme en 2000, vous rappelez, on avait vécu ensemble la crise de 2000, où il y avait des boîtes qui étaient pas rentables. Là, c'est pas du tout la même chose. Nvidia, c'est une méga story extrêmement rentable, donc il n'y a pas de bulle. Et puis quand on regarde les ratios de valorisation, le CAC 40 est à 15, mais il est à 15 pourquoi? Parce qu'il y a le secteur du luxe qui est très cher, mais il y a tout un pan de l'économie qui n'est pas très cher, les banques, l'automobile, certaines sociétés dans l'industrie, et puis dernière chose, dans le monde des small et mid, on n'est pas dans une bulle, puisqu'on a une décote entre 25 et 30% par rapport au monde du private equity. Donc non, il n'y a pas de bulle, ça ne veut pas dire que les marchés ne vont pas un petit peu rebaisser.
Mais je ne pense pas qu'on
n'est pas du tout dans la bulle des années 2000 avec à 30% de baisse à attendre sur les marchés, ça je suis persuadé, d'autant plus que sur les taux longs, si les taux courts baissent, il y a encore une marge de baisse sur les taux longs, et donc mécaniquement ça profite aux actions.
André ?
J'ai bossé, hein ?
Ouais, bien, franchement...
Pour une fois ?
Ouais, je pense que je vais te réinviter.
Alors, bulle, d'un point de vue bulle de marché, il faut plusieurs conditions pour que...
Ah, voilà, enfin un économiste.
Alors, il faut, en général, les bulles apparaissent... là, je ne parle pas de mini-bulles, comme par exemple celle sur le Bitcoin, on peut discuter, mais c'est plutôt bulles de marché. Elles apparaissent enfin d'un cycle économique expansionniste. Donc, les deux bulles les plus connues, c'est la bulle des années 20, cycle expansionniste très fort, et puis la bulle Internet aussi. Toute la décennie des années 90, c'était un cycle extrêmement fort. L'autre condition, ce sont en général des politiques monétaires accommodantes. Donc, dans les deux cas, on n'est pas du tout dans ces typologies d'actifs, puisqu'on a eu deux coups de marteau récemment sur le cycle économique avec le Covid et puis avec la guerre d'Ukraine. Et ensuite, on peut bien sûr voir la bulle, c'est des valos. Enfin, là, c'est le point d'Eric. Là, je suis d'accord. C'est vrai que les valos, même sur les segments tech, et on peut se demander si le 20 de PE moyen du marché US est élevé ou non, mais en tout cas il ne paraît pas exubérant. La tech aujourd'hui, on est à plutôt 25 fois le multiple des résultats, alors que lors de la crise Internet. Alors, la crise Internet, si on prend les... Je ne prends pas les valeurs Internet, hein, je prends vraiment les 10 mégacaps sur lesquels la hausse était concentrée, puisque la concentration de la hausse sur un nombre réduit de titres, c'est aussi un signal de bulle, et c'est un peu en train de ce qui se passait aujourd'hui. On peut dire, voilà, il y a les granolas en Europe qui montent, il y a les 7 magnifiques aux États-Unis. Si on prend les valorisations de ces sociétés, elles ne sont pas délirantes par rapport au pic précédent. Donc c'était en 2000 Et puis aussi, on peut prendre la précédente mini-bulle qui a eu. C'est en 73 qui a explosé. Et alors après, on a d'autres petits indicateurs de bulles qui sont en général, est-ce que le chauffeur de taxi vous parle de la bourse? Pas encore, je dirais.
Sur le Bitcoin. Non, mais, sur le Bitcoin. Oui, de toute façon, en France, ils parlent tellement d'Hidalgo.
Alors, ils ont d'autres sujets, c'est vrai.
Ouais. Des JO.
Donc, voilà, en général, on est peinard, il y a une accélération du nombre d'IPO. On en est très loin. Donc, ça, ce sont des mini-indicateurs de bulles. Donc, je dirais, aujourd'hui, non, on en est loin. Et puis, sur certains actifs, et là, je partage vraiment le constat d'Eric, on est loin d'être...
C'est mes lettres de noblesse aujourd'hui.
Hein.
C'est la première fois que quelqu'un partage le constat d'Eric.
Les small et mid-cap sont en valo de détresse, vous voyez. Et donc, la question...
À la casse.
La question qu'on peut se poser, c'est quid, parce que c'est vrai qu'on a une accélération à la hausse des indices qui se fait sur un certain nombre de valeurs. Par exemple, si on prend l'Eurostox, on peut expliquer 85% de la hausse, elle s'est faite sur 10 titres.
On va en parler tout
les granolas. Le risque, il y a deux types. Ça se finit en général de deux façons. Soit les titres explosent en vol, et ça c'est si l'économie se termine par une... Si on a une perspective de récession, okay. Mais on n'en est peut-être pas là. Ça, c'est aussi les constats qu'on a partagés tout à l'heure. Et alors après, c'est le scénario le plus probable et qui a eu lieu déjà à plusieurs fois dans l'histoire. Et ça a eu lieu en 32, en 30, en 39, en 64.
Pique le boulot de Jean-Marc, là.
Mais non, mais il va être chômeur. Vous êtes en train de remplacer. C'est Jean-Marc Daniel, sortez de ce corps.
Il y a un déversement de la liquidité qui se fait sur les autres valeurs. Et donc, c'est un peu ce qu'on peut espérer. Et donc, aujourd'hui, en termes de positionnement boursier, il est peut-être prudent, alors pour ceux qui veulent diversifier les risques, aussi de se positionner sur ceux des titres qui n'ont pas vraiment profité de la...
On va en parler tout de suite. Il a été bon, là, non?
Excellent.
Mais on est bon quand même.
À Sciences Po, vous donnez quelle note sur un...
On est assez sévère, mais on donne des bonnes notes aussi, donc bravo. Moi, je dirais quand même qu'il y a ce qu'il a soulevé. Non, mais c'est en complément de ce qui a été dit. En fait, il y a une question sous-jacente qui est celle du policy mix. On dit que les banques centrales vont faire baisser leurs taux, donc ça va desserrer la politique monétaire. Mais était-elle vraiment si restrictive que ça, étant donné les quantités de liquidités qui sont encore sur les marchés? Et puis, quid de la politique budgétaire, qui, elle, pour le coup, on ne peut pas dire qu'elle soit complètement restrictive non plus. Donc, en fonction de ce qui se passera et de l'intensité de l'une par rapport à l'autre, si on se dit quand même qu'au bout du compte, les politiques budgétaires vont retrouver un petit peu de raison si on ne veut pas avoir de soucis au niveau des taux longs sur les actifs de référence sûrs. Voilà, il faudra prendre en compte l'effet relatif de ces deux évolutions.
Je vais me tourner vers les gérants pour les placements de la semaine. J'ai une question très simple. J'explique en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a deux modes de gestion. Quand vous confiez de l'argent, il y a soit des gérants actifs, des gens intelligents comme André, soit vous avez des machines. On appelle ça la gestion passive d'un côté, la gestion active de l'autre. La gestion passive, ce sont les ETF principalement, c'est-à-dire des trackers, des fonds indiciels qui répliquent un indice. Sans se poser de questions, ils ne se demandent pas si LVMH est trop cher, si Nvidia vaut son prix, ça monte, ils achètent, ça baisse, ils vendent. Est-ce que aujourd'hui, André, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les ETF pour vous, c'est la solution? Parce qu'en ce moment, on est en train d'expliquer que finalement, il y a très peu de gérants actifs qui battent les indices, donc autant acheter l'indice. Ou est-ce que c'est le problème? Parce que des gens comme Sébastien Lalvé disent toute cette gestion algorithmique, elle est en train de provoquer cette hyper-concentration et cette exagération de marché dans un sens ou dans l'autre. Et donc, c'est ça qui crée les perturbations.
Alors, je prêche pas nécessairement pour ma paroisse en disant ça, mais c'est vrai que les ETF répondent à un certain nombre et je pense qu'elles ont leur place dans l'épargne, dans les allocations d'actifs en tout cas. Les ETF ont le gros avantage d'être très peu chargés en frais et de coller le plus possible à l'indice. Par contre, elles ne sont pas la solution. C'est vrai que les ETF ont pris une place très importante, puisque si on prend l'évolution des 15 dernières années, au niveau mondial, les ETF, la part entre les ETF, donc gestion passive et gestion active, les ETF sont passés de 15% à 51% de la gestion. Et donc, ça veut dire que les gens, les gérants qui eux-mêmes sélectionnent les titres sont aujourd'hui minoritaires face à la gestion passive. Et donc, les deux biais que ça crée, le premier, c'est celui que vous avez cité, c'est l'hyperconcentration. Parce que ça aboutit à la sortie, puisque bien sûr les fabricants d'ETF, c'est des businessmen, donc eux, ils concentrent les produits sur des gros volumes et il n'y a pas d'ETF par exemple sur les indices small et mid. Voilà. Vous voyez, et donc ça redirige les flux vers
ça provoque l'hyperconcentration vers les grandes valeurs.
Voilà, vers les grandes valeurs, et ça aboutit à créer des biais de valorisation, et c'est le biais qu'avait cité Eric, et là je suis parfaitement d'accord avec ce biais-là.
ETF, fonds indiciels, c'est le problème ou la solution ?
Moi, je pense que ça peut être une bonne solution si vous voulez acheter en Corée, si vous voulez acheter en Chine, si vous voulez acheter des boîtes sur la transition énergétique, parce que c'est vrai que c'est des bons produits. Moi, comme je suis un adepte du stock picking, je vais pas vous dire du bien des ETF. Moi, je considère que les gérants restent. Je préfère confier mon argent à un gérant que je connais. Je préfère gérer mon propre argent en achetant des actions plutôt qu'en achetant des ETF. Évidemment, ça crée une bulle. Vous avez vu que sur le Bitcoin, dès que ça a été annoncé des ETF Bitcoin, en l'espace de 2 mois, le Bitcoin a gagné 35% en ligne droite. Donc, évidemment que ça provoque des bulles. Pas sur les grosses boîtes, mais c'est vrai qu'il y a plein de produits sur lesquels il y a pas des ETF. Sur les smalls, je rejoins Andrèche, il n'y a rien. Donc autant acheter des smalls en direct, vous pourrez faire sans doute des meilleures performances qu'un gérant.
Le top ou le flop de la semaine, Jean-Marc Daniel, je crois que vous avez une petite surprise pour nous.
Oui, moi mon top c'est Chocolatine.
Ok.
Donc pourquoi Chocolatine ? Parce qu'il y a eu deux nouvelles sur la Chocolatine. La première nouvelle, c'est que d'après une enquête...
C'est un rapport avec l'émission quand même.
Oui, tout à fait. Okay. D'après une enquête sur les consommateurs, il a été indiqué que pour la première fois, au petit déjeuner, en termes de viennoiserie, les Français consommaient plus de Chocolatine que de croissants. Et deuxième élément, pour la première fois cette semaine, le cours du cacao a passé les 7 000 $ la tonne. Alors, vous avez tout un tas de commentaires en disant comment on va passer Pâques, l'inflation repart. J'indique que effectivement le cours du cacao, donc on est à un peu plus de 7 000 $, le cours du cacao sur les 10 ans qui précèdent était entre 2 000 et 2 300 $ la tonne, donc c'est un bon spectaculaire. Mais vu la consommation de cacao que nous faisons essentiellement par l'intermédiaire des chocolatines, ça va représenter à l'heure actuelle une ponction de pouvoir d'achat sur chaque Français de 14 à 15 €. Et donc, je pense que ça peut être supporté par les Français. Et donc, on en rejoint à ce que je disais sur l'inflation. Il n'y a pas d'inflation.
Il
y a un prix qui bouge. Ah, c'est l'inflation. Ah, il faut bouger. Que fait la Banque Centrale? Que fait...
Mais on pourrait même... Mais
15 €
je pense
sur la
qu'en
chocolatine.
Vous écoutant, Bruno Le Maire va faire un bouclier tarifaire sur la chocolatine.
Ah mais je pense que c'est. On va vers ça la semaine prochaine. S'il n'a pas réagi, il faudra que vous le.
Et oui, il va y avoir des manifestations. André, le top ou flop de la semaine pour vous.
Alors le top, c'est pour nous. C'est l'annonce du départ du DG de Peugeot Invest qui réveille ce titre qui ronronnait
pauvre homme
ronronnait tranquillement. Oui, c'est un flop pour le DG, mais c'est un top pour le titre.
Il était si mauvais que ça ou pas?
Alors je ne fais pas de jugement. Je regarde juste l'évolution boursière, et c'est vrai que le titre a pris 10%. C'est un événement, c'est une annonce étonnante et une réaction étonnante, mais c'est vrai que Peugeot Invest, c'est le holding de la famille Peugeot. C'est un titre qui décote énormément, puisqu'il décote de 60% sur sa valeur de la valeur de son actif net réévalué. Et c'est vrai que c'est une décote qui interpelle, car on est dans un contexte où beaucoup de holdings ont annoncé des mesures très fortes pour réduire cette décote. On a Exor et on a par exemple Exor et qui annonce des rachats de ses actions. On a Eurazeo qui décide aussi de distribuer beaucoup de capital parce qu'il se reconcentre sur son métier. On a le split de Vivendi, la scission en deux. Et là, on a un titre qui se traite à une décote extrêmement élevée, qui pour nous est un désaveu, honnêtement, pour la gestion à date.
Pauvre homme. Eric Ewing.
Fast Fashion.
Ok.
Inditex, résultat record, plus haut historique sur l'action, 140 milliards de capitalisation.
C'est vrai que c'est frappant.
Des chiffres exceptionnels, on pensait qu'il n'y avait que le luxe qui avait ce genre de chiffres. Croissance organique de 10%, 11 milliards de trésorerie nette, quasiment 20% de rentabilité.
Natacha, il faut que vous reveniez à chaque fois.
C'est ce que vous...
Il n'a jamais autant bossé.
Et ça,
il faut prendre des notes.
Non, ça veut dire qu'on peut gagner aussi beaucoup d'argent dans le textile. Et donc, la grande problématique, c'est qui gagne beaucoup d'argent dans le textile ? La fast fashion en bas, le luxe en haut et tout le tissu au milieu qu'on connaît avec les Sandro, Maje, Claudie Pirlo, toutes ces boîtes qui sont pas luxe. Pas fast fashion, c'est des boîtes qui ont des problèmes. Donc bravo à Zara, 140 milliards de capitalisation, plus haut historique, et un titre qui vaut que 25 fois ses bénéfices, ce qui est cher, mais compte tenu de la rentabilité, je pense qu'il y a encore du potentiel sur ce dossier.
Achetons du Zara. Moi, j'aime bien le BTP. Enfin, j'aime bien la dette italienne parce que je trouve que finalement, par les temps qui courent, on a éliminé complètement le risque zone euro, le risque d'éclatement. Alors, je ne dis pas que ça ne reviendra pas, notamment après les européennes au mois de juin. Mais en tout cas, ça fait partie des symboles et des symptômes qu'il y a des choses qui fonctionnent quand même bien dans la zone euro. Et que
surtout qu'il faut juste rappeler, pour les gens qui ne suivent pas, c'est que la prime cette semaine est descendue à 1,16%. C'est la prime de risque par rapport au taux allemand à 10 ans et que c'est le plus bas depuis 2 ans. Et pour mémoire, c'était quasiment 4% au moment de la crise de 2011.
Très, très haut en termes de relativement haut niveau. Et
c'est une deuxième surprise quand même parce que tout le monde avait dit en septembre 2022 quand Giorgia Meloni a pris le pouvoir que ça allait être une catastrophe, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant.
Non, pour l'instant, donc à regarder de près.
Le top 3 des gérants que tout le monde attend avec impatience. En 1, Pascal Sévy avec 11,1% de hausse. En 2, Pierre Chang avec 8,8% de hausse. Et en 3, Marisol Michel, 7,4% de hausse. Des performances qui sont plutôt très bonnes depuis le début de l'année. Mais j'aimerais quand même qu'on m'envoie une musique qui fait peur. André, je vais lire votre portefeuille, les yeux dans les yeux, la France vous regarde. Vous allez devoir me dire si vous gardez vos actions ou pas et quelle action vous achetez. Alors je commence. Alten.
Je garde.
BNP.
Je garde.
Stellantis.
Je garde encore.
Vous gardez encore ? Ça a fait un super parcours. Hein.
Oui.
Mais on garde, d'accord. Vivendi.
La valo est basse.
La valo est basse encore ? Ok.
4 fois les bénéfices.
Vivendi.
Je garde.
Téléperformance.
Je garde, je m'obstine.
Vous pensez que c'est... Qu'est-ce que vous dites sur cette boîte, en fait ?
Sur cette boîte, je dis que le marché a capitulé.
Oui.
Je dis que c'est une boîte qui fait 15% de marge. Elle génère beaucoup de free cash flow. Elle a une rotation de son personnel qui est très forte. Et donc, elle peut s'adapter. Elle a une croissance qui reste positive.
Non, mais le problème, c'est l'IA, quoi. Le problème, c'est est-ce qu'on peut la remplacer par l'IA ?
Alors voilà, c'est un fantasme. Je pense que c'est un fantasme. Et nous, on pense qu'il y aura un re-rating. Et aujourd'hui, on s'approche.
Technip Energy.
On garde.
J'ai compris pourquoi vous parliez de poulet. Vous avez du LDC dans le portefeuille. On garde.
Voilà.
Airbus,
on garde.
Ryanair,
on garde.
Qu'est-ce qu'on achète ?
On achète du Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est aujourd'hui notre top pick. C'est une société qui a vraiment connu une décennie désastreuse, celle des années 2010, sans croissance ou avec une très faible croissance. Mais depuis peu, il y a un nouveau management qui fait vraiment du très bon boulot. Ils ont repositionné la société sur des métiers de croissance, chimie de la construction qui va bientôt faire plus de 10% de son chiffre d'affaires et être le numéro 2 mondial. Le numéro 1, c'est Sika, c'est une société qui est extrêmement bien valorisée par la bourse. Donc c'est une pépite cachée de Saint-Gobain. Aussi Saint-Gobain, qui avait la perception d'être une société plutôt positionnée Europe, s'internationalise avec des acquisitions au forceps aux États-Unis, au Canada, en Australie, et donc modifie son profil. Et je pense que Stellantis risque de voir ce qu'a vécu le re-rating fait par la perception du positionnement américain et en tout cas non européen de la société. Aujourd'hui, on paye ça 10 fois les résultats.
Il faut y aller.
Buy fort.
Saint-Gobain, on fonce. Allez, envoyez-moi une musique qui fait peur. Eric Lewin. Reward Media.
On garde.
Genoway.
On garde.
Touax.
On garde.
Dassault System.
On garde.
Freelance.com.
On garde.
Ipsos.
On gagne quoi sur Ipsos ? 20%, je crois.
13.
On sort.
On vend Ipsos, ouais. D'accord. S2I.
S2I, j'ai déjà vendu, j'ai déjà porté à l'OPA.
Ah bon, très bien.
Vous avez un métro de retard.
Montclair.
Montclair, on doit gagner une vingtaine de pourcents.
26.
On garde toujours.
Capgemini.
On garde.
Assystem.
On garde.
Vallourec, bravo.
Vallourec, on garde. Hein. C'est que le début de l'opération.
Katana.
On garde.
Et qu'est-ce qu'on achète ?
On achète Accor, un dossier que j'aime beaucoup. une valeur qui est très en retard par rapport à l'ensemble de ses comparables.
Il y a votre ami Nicolas dans le, au board ou pas?
Il y a Sébastien Bazin surtout qui a fait du bon boulot depuis 2013, vendre des murs et surtout monter en puissance dans le luxe avec Banyan Tree et Raffles qui sont des marques de luxe. Et donc Accor, il y a un positionnement de plus en plus luxe. Le revenu par chambre a progressé de 23% l'an dernier. Ils ont plus de 20% de marge de rentabilité à 1 milliard. Et ça ne vaut que 18 fois les bénéfices alors que l'ensemble du secteur vaut 25 fois. Et sur 10 ans, l'action n'a gagné que 15% quand Marriott et Hyatt ont gagné plus de 200%. Donc Accor, je pense que ce n'est pas fini, mon cher Marc Pirandino.
Il a bossé.
Sans note, là.
En vrai, vous êtes impressionné ou pas? Vous en avez du Accor, vous, dans le portefeuille?
Alors, pas dans tous les portefeuilles.
Mais vous en avez quand même.
Alors,
Parce que dans le couloir, vous m'avez dit, c'est une daube.
Alors,
par contre, Saint-Gobain, c'est une très belle boîte, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Non, le track record sur longue période, je suis moins enthousiaste parce que le décollage, il est que récent. Et le PDG en place, il est en place depuis très longtemps. Et il a fait beaucoup de diversification hasardeuse. C'est le chef des boîtes de nuit à Paris. Enfin, il a fait beaucoup de diversification.
Le chef des boîtes de nuit à Paris.
Oui.
C'est énorme.
Non, mais c'est Paris Society, c'est pas les boîtes de nuit, c'est les restaurants.
Alors oui, c'est les restaurants.
C'est plus des restaurants. Excuse-moi.
Bon, donc vous en avez ou pas?
Donc on en a, mais honnêtement, c'est parce que c'est un play conjoncturel. Vous voyez, on joue le rebond de l'hôtellerie. On n'est pas nécessairement convaincu par la stratégie.
Moi, je pensais que le chef des boîtes de nuit, c'était Jean-Marc Daniel.
Non, mais je vais en acheter, en revanche. Parce que si on peut acheter des boîtes de nuit, il faut se précipiter.
Il faut y aller tout de suite. Allez, merci de nous avoir suivis. Merci à ce très beau plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire. Bon, je ne sais pas si elle sera aussi exceptionnelle, mais elle sera exceptionnelle. Et surtout,
impossible.
Ah,
non, bon. Impossible.
Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter, nous revoir en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Et on bat chaque semaine des nouveaux records.